le journal Loïc Georgi.
Bonsoir. Du changement à la tête de l'Étoile de Perfit, Fabien Mérilla remet le restaurant familial après 86 ans de règne familial. La recherche d'un successeur n'a donc pas été de tout repos. Une journée spéciale Moyen-Âge qui se veut rassembleuse, c'est l'objectif du réseau des classes à degrés multiples du Jura bernois. Vous entendrez un reportage dans ce journal en compagnie des élèves qui ont profité de faire de nouvelles rencontres. Gros coup dur pour l'équipe de Suisse de hockey sur glace, elle vient de se faire sortir en quart de finale du championnat du monde par l'Allemagne, encore une fois, résumé des faits dans ce journal. Météo, le soleil de l'après-midi repointera le bout de son nez demain. C'est une belle journée qui nous attend à la veille de ce week-end de Pentecôte. Les températures, quant à elles, seront douces avec des maxima atteignant les 24 degrés par endroit. C'est une page qui se tourne dans la gastronomie régionale. Fabien Mérilla remet le restaurant familial de l'Étoile à Perfit au mois d'août. L'établissement sera repris par un chef cuisinier de renommée en provenance de l'Oberland bernois. Voilà 86 ans que la famille Mérilla entretient ce restaurant de descendant en descendant. Il est temps de passer le flambeau, estime son chef actuel, mais le processus de recherche a été long, comme l'explique Fabien Mérilla.
Ça, c'est une réflexion qu'on a déjà eue avec mon épouse juste avant le Covid, il y a 4 ans. Ça veut dire qu'un établissement public comme le nôtre, il faut entre 1 et 10 ans pour le remettre. Donc, on a quand même laissé passer le Covid. On avait quand même dit à nos clients, si on me demandait déjà ce que j'allais faire à l'époque, j'ai dit oui, si je trouve quelqu'un, je ne vais pas attendre 65 ans pour le remettre. Et puis, une opportunité s'est faite en septembre donc 2022. Suite à un concours de circonstances, une personne a su qu'on avait un restaurant qui était éventuellement à remettre. Et cette personne est venue au restaurant avec son CV et nous a dit « j'ai entendu que vous remettez le restaurant ». Et puis, les discussions sont parties de là avec cette personne. Elles ont duré 8 mois. C'était un couple qui faisait vraiment l'affaire. Honnêtement, je ne pouvais pas rêver mieux pour la reprise de l'établissement.
Vous ne pouviez pas rêver mieux, mais il y a quand même un œil qui rit, un œil qui pleure. Émotionnellement, vous gérez ça comment ?
Bien sûr que c'est pas toujours facile de remettre un restaurant, mais… Quand on a repris ici à 29 ans, donc c'est quand même un restaurant qui est depuis 86 ans dans la famille, j'avais toujours dit à mes parents à l'époque que je ne ferais pas 30 ans ici.
Fabien Mérilla au téléphone de Diana D'Acosta. Quant à lui, il rendra son tablier pour gérer l'hospitalité, l'espace visiteur de la maison du Grand Chasseral, qui verra le jour au mois de septembre à Sonsbeau. Une année 2022 marquée par la perte d'un des symboles de la région. Jura Bernois Tourisme a tenu son assemblée générale hier soir, l'occasion de faire un point sur l'effondrement des marches de la Tour de Moron il y a un an. Jura Bernois Tourisme a dû faire face à ces incidents et surtout à la fermeture momentanée d'une attraction phare du Grand Chasseral. L'institution basait une grande partie de sa stratégie sur l'édifice et a dû réagir très vite. Le directeur de Jura Bernois Tourisme, Guillaume Davot, nous explique le travail accompli par son association.
Pour le moment, ça a surtout demandé un gros effort, l'année passée, à la suite du double effondrement des marches, puisque c'est à ce moment-là qu'on a dû retirer la mention de la tour, ou en tout cas indiquer qu'elle était momentanément inaccessible. Donc là, c'était plutôt dans les mois de, juin et juillet l'année passée, puis tout au fur et à mesure de la réimpression de nos brochures, on a eu le réflexe de retirer cette tour de Moron. Et pour la suite, pour le moment, Jura Bernois Tourisme est à disposition de la Fondation de la Tour et de la Commune. Et on n'a pas véritablement de stratégie dans la mesure où on doit attendre les résultats de l'enquête. Mais l'association souhaite vraiment qu'un projet de reconstruction puisse avoir lieu pour que cet emblème soit de nouveau visitable par nos nombreux visiteurs.
Et retrouve un dossier complet sur l'impact de l'effondrement des marches de la Tour de Moron sur Jura Bernois Tourisme ainsi que sur l'avancée du projet de déménagement de l'institution de Mouty à Sonsbeau sur notre site rjb.ch. Ils étaient environ 130 élèves ce jeudi à Perfit à profiter d'une journée spéciale Moyen-Âge. Des écoliers au profil particulier, tous proviennent de classes à degrés multiples. Un modèle villageois où des enfants de 5 à 6 ans peuvent côtoyer sur les bancs d'école des grands de 10 à 12 ans. La manifestation était organisée par le réseau des classes à degrés multiples du Jura bernois. Le reportage d'Olivier Zano.
Ambiance médiévale ce jeudi autour de la halle de gymnastique de Perfit. Le réseau des classes à degrés multiples du Jura bernois s'est donné de la peine pour offrir une journée ludique aux écoliers de la 1H à la 8H. Ils sont venus de leur village des quatre coins de la région.
Moi je viens de Champeau.
Nous de Mont-Soleil.
Moi de la Tonne.
C'est pas souvent que vous avez l'occasion de rencontrer d'autres élèves d'ailleurs.
On n'a pas beaucoup l'occasion, mais quand on a l'occasion c'est bien.
voir aussi un petit peu des personnes que vous connaissez pas, c'est ça, d'autres enfants?
Ouais, parce qu'on n'est pas beaucoup dans notre école, on n'est que 15, et puis ça fait du bien aussi un peu de voir des autres enfants.
Journée ludique donc, avec des jeux moyenâgeux, de la danse, de la poterie, de la cuisine, du chant, comme on l'entend. Quelques échanges à l'épée aussi. Tout cela a aussi, bien sûr, un intérêt pédagogique. Joëlle Lebrun, enseignante à Latane.
C'est un thème important dans le moyen d'enseignement, enfin dans le plan d'études roman. Et en plus, ben, c'est un thème qui intéresse beaucoup les élèves. Et moi, j'ai un attachement tout particulier à cette période, car je fais de la reconstitution historique du 15e siècle. Et du coup, ben, je me suis dit, au lieu de rester en classe à toujours lire les livres, pourquoi ne pas faire vivre cette histoire? Alors je me suis lancée dans la conception de cette journée.
Organiser un tel événement serait impossible pour les plus petites écoles du Jura bernois, d'où l'importance de ce réseau des classes à degrés multiples. Sa responsable, Sophie Billa.
Alors ça permet d'avoir suffisamment d'élèves, un public suffisamment grand pour faire venir des intervenants extérieurs, ce qu'on ne pourrait pas faire avec une école qui a une quinzaine d'élèves.
D'habitude, c'est vraiment des activités en classe, dans les petites écoles, un peu de la peine à se mélanger aux autres, vu les circonstances.
Alors pour se mélanger entre petites écoles, il y a à chaque fois le problème des transports, donc c'est quand même un coût. Alors c'est vrai qu'on ne le fait pas très souvent. Souvent, chaque école reste plutôt dans son école ou en tout cas dans le village.
Pour les enfants, de belles et nouvelles rencontres et même quelques vocations en anglais médiéval.
Super. Il faut se souvenir des enfants placés. Le symbole commémoratif bernois est inauguré aujourd'hui dans tout le canton de Berne. Des plaques avec des codes QR installées dans les communes rappellent l'histoire de ces enfants arrachés à leur famille jusqu'en 1981. Pauvreté des parents, naissance illégitime, les raisons sont multiples, mais la souffrance et les mauvais traitements se retrouvent partout. Les communes étaient libres de participer ou non à cette initiative cantonale. 166 d'entre elles ont répondu à l'appel, dont Bienne et plusieurs du Jura bernois. Si l'engouement pour cette démarche est si fort, c'est aussi car le canton de Berne a des choses à se reprocher. Un mea culpa que nous explique le chancelier Christophe Auer.
C'est les autorités bernoises qui ont aussi une responsabilité. Il y avait aussi le conseiller d'État, Christophe Nayot, par exemple, là, une fois, s'est déjà excusé, comme aussi les membres du conseil fédéral, Madame Wittmann-Schlumpf s'est excusée pour ce qui s'est passé, aussi Madame la conseillère fédérale Sommaruger. Et oui, le canton de Berne, le grand canton, a aussi une responsabilité et il dit aujourd'hui, ce qu'on a fait autre temps, c'était pas juste. Il y avait des décisions qu'on peut plus comprendre aujourd'hui. Il y a vraiment, on a fait du mal à beaucoup de victimes et c'est quelque chose qu'il faut commémorer et qu'il faut garder présent aussi dans la jeune génération qui ne connaît pas ce problème parce que ça peut se répéter toujours. Peut-être dans 50 ans, on a dit qu'est-ce que vous avez fait dans les années 20 avec, je ne sais pas, les immigrants ou d'autres victimes, d'autres personnes qui ont besoin du soutien.
La plaque commémorative créée par le graphiste bernois Claude Kuhn est affichée dans les deux langues devant le nouveau musée Bienne par exemple. Description du visuel avec Bernadette Walter, directrice du NMB.
Le symbole, ça c'est un punaise. Et le punaise, il y a toujours un petit peu les deux côtés. D'un côté, un punaise, c'est un objet pour afficher quelque chose, pour se souvenir. Mais si vous laissez un punaise quelque part sur le sol et vous marchez au-dessus, ça fait du mal. Et ça, ce sont les deux côtés de ce symbole qu'on voit. D'une part, ça veut dire qu'on ne veut pas oublier qu'est-ce qui s'est passé à ces gens et aussi que ces souvenirs font mal.
De nombreuses activités en lien avec cette thématique sont organisées dans la région dès ce soir. Retrouvez un dossier complet sur notre site internet rjb.ch. Les voyageurs depuis Bienne doivent s'attendre à des temps de trajet rallongés de 15 à 30 minutes. Les trains au départ de la gare de Bienne seront remplacés par des bus les week-ends des 30 septembre et 1er octobre et des 7 et 8 octobre, annoncent les CFF aujourd'hui. Une flotte de 50 bus de substitution circulera toutes les 15 minutes entre Neuchâtel, Bienne et Granges et toutes les 30 minutes pour les autres lignes. Un cycliste a été grièvement blessé à Schouden, un homme circulant en e-bike a chuté hier en fin de journée sur un chemin secondaire en direction du terrain de football, indique aujourd'hui la police cantonale. Âgé de 29 ans, l'homme a été pris en charge par une équipe d'ambulanciers. Il a ensuite été emmené à l'hôpital par la Réga. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de l'accident. Les primes maladies pourraient prendre l'ascenseur l'année prochaine. L'Office fédéral de la santé publique a fait le point de la situation ce matin à Berne. Les perspectives sont plutôt sombres. Les réserves des assureurs sont particulièrement basses alors que les coûts de la santé continuent d'augmenter. Cette hausse s'explique en partie par les frais de traitement et des vaccins contre le Covid. Mais une part reste inexpliquée. Il faut prendre plus de mesures pour maîtriser les coûts, affirme le directeur adjoint de l'Office fédéral de la santé publique, Thomas Christen.
On l'a fait avec l'écoute des laboratoires, on va baisser les prix des médicaments, mais à part de ça, c'est aussi très important qu'on traite les différentes propositions qui ont été acceptées par le Conseil fédéral et qui sont maintenant au Parlement, qui ont aussi un effet positif sur les coûts. Et troisièmement, tous les acteurs ont la possibilité d'agir, de faire baisser les coûts.
Dans quel domaine est-ce que vous voyez un potentiel important de maîtriser des coûts?
Alors on a fait il y a quelques années une étude et là on a constaté qu'on peut encore baisser des coûts dans chaque domaine. Il y a tous les acteurs qui doivent faire quelque chose. Et c'est un peu le problème de notre système de santé, que les acteurs, ils ont toujours l'impression que chez eux, on ne peut pas épargner sur tous les autres. Et ça, on a vu que ce n'est pas le cas.
Il est encore trop tôt pour déterminer l'ampleur de la hausse des primes maladie l'an prochain, mais elle sera probablement supérieure à la moyenne, estime l'Office fédéral de la santé publique.
RJB, 18h11, Loïc Georgi, il est temps d'annoncer une mauvaise nouvelle.
Sport. Et c'est le cas de le dire, Steve. Nouvelle grosse désillusion pour l'équipe de Suisse de hockey sur glace. Elle vient de se faire sortir du championnat du monde en quart de finale. La sélection de Patrick Fischer a chuté face à l'Allemagne. Défaite 3-1 du côté de Riga. On peut clairement parler d'une grosse surprise, Mathieu Schaffner.
Clairement, une grosse et mauvaise surprise. La Suisse a impressionné en phase de groupe. Une seule défaite en 7 matchs, et encore, hein, c'était lors de la dernière journée, avec des Helvètes déjà assurés de la première place et des joueurs laissés au repos. Mais cet après-midi, on a compris très vite que la Suisse n'était pas dans son meilleur jour. Son gardien Robert Mayer est clairement coupable sur l'ouverture du score à la 7e minute de jeu. Et si les Helvètes ont dominé, ils se sont cassés les dents sur une défensive allemande compacte. Jonas Siegenthaler a remis les compteurs à égalité à la 21e, mais les petits détails, les rebonds ont rarement souris aux Suisses. Ils ont même concédé le 3-1 dans la foulée du 2-1 en jouant en supériorité numérique en fin de deuxième période. Et malgré une domination sans partage dans l'ultime tiers, rien n'a changé, même en évoluant à 6 contre 5 durant plus de 3 minutes. Comme il y a 2 ans, la Suisse sort donc face à l'Allemagne et cela fait désormais 4 échecs en quart de finale pour la troupe de Patrick Fischer.
Et du côté de Tampere, les États-Unis ont pris la mesure de la Tchéquie, 3-0 pour filer en demi-finale. Ce soir, le Canada fera face à la Finlande, alors que la Suède affrontera la Lettonie, match à 19h20. Un gardien suédois débarque à Berne, Adam Reideborn, s'est engagé pour 2 saisons avec le club de National League de hockey sur glace. Il sort de 2 hivers passés dans les rangs du CSKA à Moscou en KHL. Une 3e Suisse accède au tableau principal de Roland-Garros. Ilena Hénalbon s'est qualifiée cet après-midi pour ce tournoi de tennis du Grand Chelem. À Paris, la Valaisanne a dû batailler pour battre la Japonaise Nao Hibino en 3 manches, 6-6-2-6-4. Elle défiera une autre qualifiée au premier tour et ce sera aussi le cas de la Saint-Galloise Belinda Bencic alors que la Biennoise Jill Teichmann fera face à l'Italienne Sarah Errani. Côté masculin, le Vaudois Stan Wawrinka entrera en lice face à l'Espagnol Albert Ramos Vignolas et le Zurichois Marc-André Hüsler se frottera à l'Allemand Daniel Altmaier. Et pour terminer, Thibaut Pinot encore battu au sprint sur le Giro. Le cycliste français a vu la victoire lui échapper de peu cet après-midi sur la 18e étape du Tour d'Italie. Son dernier compagnon d'échappée, l'Italien Filippo Zanna, l'a emporté au terme de cette journée de montagne. Thibaut Pinot a déjà vécu le même scénario vendredi passé à Crans-Montana. Les favoris ont franchi la ligne d'arrivée ensemble. Le Britannique Geraint Thomas reste leader du classement général à 3 jours de l'arrivée à Rome. C'est la fin de ce rendez-vous d'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente fin de journée.